cachet. Comme ça, les gens qui l'ont pas
cool,
vu.
Ouais, ça, ouais. Moi, j'aimerais toujours faire. C'est curieux de ce truc-là.
C'est bon, ça marche. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour Rémi, bonjour Guillaume. Donc, nous nous trouvons à la Japan Expo où vous officiez actuellement, ou plutôt vous êtes enchaîné à votre stand, fouetté régulièrement et encensé par la foule qui pousse des oula par rapport à votre œuvre. Donc, un global manga.
Je vois que tu es passé nous voir, c'est sympa.
Qui s'appelle City Hall. Alors, avant toute chose, on va commencer par la question que vous avez dû entendre au minimum 30 000 fois, vu qu'il y a une queue monstrueuse avant et après moi par rapport au fait que votre œuvre va très certainement être adaptée par Spielberg et produite par Tom Cruise, si j'ai bien compris.
Exactement, c'est ça.
Donc, pourriez-vous, avant que vos chevilles enflent, que la gloire vous ait rattrapé, nous parler de vous, chacun?
Il paraît qu'elle court très vite, la gloire.
Alors vas-y Guillaume, je te laisse commencer.
Alors je suis Guillaume Lapeyre, dessinateur de bande dessinée. J'ai commencé, mon Dieu, il y a 10 ans déjà. Est-ce que je parle assez fort ? J'ai commencé il y a 10 ans déjà, avec une série très classique d'anticipation chez les Delcourt, Les Chroniques de Magon, en 6 volumes, avec Nicolas Jarry au scénario, et Elsa Brands, ma compagne, au couloir. J'ai fait ensuite 2 tomes d'un space opéra, toujours avec Nicolas Jarry, qui s'appelle Ether, toujours chez Delcourt. Qui n'a pas beaucoup fonctionné, c'est pour ça qu'il n'y a que 2 tomes. Et j'ai rencontré un été au Festival de Palavas, Rémi Guérin, alors que j'étais à la recherche d'un nouveau scénariste, et avec qui j'ai commis Explorers, une série fantastique en 3 tomes chez Soleil. Et maintenant, City Hall.
Voilà, donc moi je suis Rémi Guérin, je suis scénariste depuis maintenant quasiment 8 ans. Je suis plutôt fait l'étude de cinéma, donc je suis plutôt issu du cinéma. Mais bon, finalement, la BD s'est imposée à moi assez rapidement. Et j'ai commencé par une série que j'ai co-scénarisée avec Eric Corbéran chez Dargo, qui s'appelle Les Véritables Légendes Urbaines, qui est plutôt du thriller. Ensuite, j'ai rencontré Guillaume, avec qui nous avons effectivement donc commis 3 tomes d'Explorers. Dans le même temps, j'ai aussi scénarisé 2 tomes de Kookaburra Universe, chez Soleil toujours, donc de la science-fiction. Et actuellement en préparation, j'ai un western chez Glénat, qui s'appellera Pinkerton. Voilà, et toujours dans le même temps, City Hall, qui vient de sortir et qui continue.
D'accord. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous connaissiez un peu le style manga, vu le style, justement, de Guillaume Lapeyre, et vu votre précédente œuvre, Explorer, effectivement, en 3 tomes, chez Soleil, qui traitait, donc si je dis pas trop de bêtises, d'une équipe, j'allais dire, de héros un peu bracassés, chargés d'aller remettre un peu les choses en ordre dans des romans.
C'est exactement ça, oui, tout à fait.
Et j'allais dire, maintenant, vous le concrétisez totalement en passant finalement à un global manga. Alors pourquoi ce type d'œuvre, précisément ?
Pour moi, c'est un rêve depuis mes 15 ans. J'ai 15 ans et je sors du film Akira. Et là, j'ai envie de raconter des histoires. Le rêve naît dans ma tête. Et je suis un acteur de manga. J'ai découvert la bande dessinée avec Dragon Ball, Akira, Nicky Larson, ce genre de choses. C'est en voulant devenir professionnel que je me suis intéressé à ce qui se faisait aussi en BD franco-belge autant qu'en comics US. Mais je suis un lecteur de manga avant tout. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, en fait, c'est mon 12e album. Et j'ai attendu 11 albums avant de vouloir faire ce pourquoi j'étais programmé pour. Et c'est grâce à Ankama qu'on a pu enfin concrétiser ce rêve qui est le mien.
Alors moi mes raisons sont complètement différentes, c'est pas du tout les mêmes, je suis absolument pas un lecteur de manga au départ, j'en ai même lu à ce jour encore très très peu, même si le peu que j'ai lu et qui m'a été conseillé par Guillaume, je l'ai trouvé très bon. Je suis d'abord un lecteur de BD, on va dire au format classique franco-belge, je suis aussi un lecteur de comics, mais je l'ai fait pour 3 raisons. La première, c'est par amitié pour Guillaume, parce qu'il rêvait d'en faire un depuis toujours, et aussi parce que je pense aujourd'hui encore sincèrement que c'est un des seuls dessinateurs que moi j'ai la chance de connaître qui pouvait le faire, avec le temps imparti et le talent nécessaire, parce que c'est compliqué aujourd'hui de faire 2 pages par jour en bande dessinée, et je connais peu d'auteurs qui savent le faire, sans pour autant que ça enlève du talent aux autres. La seconde raison, c'est en tant que scénariste, je me suis retrouvé à faire beaucoup d'albums en 46 ou 48 planches, et je me suis trouvé à chaque fois contraint en fait par la pagination et obligé de faire des ellipses qui finalement mordent un petit peu sur l'univers que j'ai envie de développer, et j'avais besoin de place. J'avais besoin de place en particulier pour cette histoire, et voilà, quand on me propose 3 fois 160 pages, forcément ça me fait rêver. Et la dernière, c'est en tant que lecteur. Aujourd'hui, la BD est devenue un produit extrêmement cher, c'est quasiment un produit de luxe. Et j'avais envie, moi en tant que lecteur et aussi pour nos lecteurs, de leur proposer quelque chose qui soit conséquent à lire, mais qui coûte peu. Et aujourd'hui, pour 7,95€, ils ont l'équivalent de 4 albums de BD à plus de 13€. Quoi.
Alors, pour revenir sur le style graphique, je sais, mon cher Guillaume, que tu es un grand fan justement du dessinateur de Bakuman.
Oui.
Death Note et j'arrive pas à me souvenir de sa première œuvre.
Hikaru
Nobuo. Alors pour ceux se demandant justement à quoi ça ressemble, soyons honnêtes, t'atteins quasiment le même degré de perfection que ce brave monsieur.
On vient de le perdre.
Voilà.
C'est ça.
Disons que Obata est le soleil et je suis Hikaru avec ses pauvres petites ailes qui essayent désespérément de s'approcher du dieu vivant. J'ai eu la chance d'avoir une dédicace de lui que j'ai mis à droite de mon bureau. Je regarde tous les matins, je brûle de l'encens et je me souhaite bonne journée et bon courage face à la tâche qui m'attend quotidiennement. Ce type m'a révolutionné la manière de dessiner. Donc, je le prends en exemple. Au moment de bosser sur City Hall et au moment de commencer à réfléchir à ce qu'allaient être Jules Verne et Conan Doyle, les deux principaux personnages de la série, il y avait le premier Bakuman à droite de ma feuille de croquis. Et j'ai regardé l'un l'autre et je me suis dit non, on va pas le faire quand même, parce qu'on parle de deux mangaka dans un cas et nous on parle de deux romanciers. C'était tentant. 5 secondes, j'ai réfléchi, je me suis dit non, on va pas le faire, c'est abusé. Mais comme c'est tellement amoureux de ma part, c'est tant pis. Alors c'est vrai, il ressemble beaucoup aux deux auteurs de Bakuman.
Alors Dieu merci, il nous a pas raconté la fameuse anecdote comme quoi il glissait des gouttes de saké dans son thé aussi tous les matins.
C'est ça.
Venons-en à des détails autrement plus importants. Pourquoi City Hall? J'imagine que ça n'a absolument rien à voir avec le film de 1995 avec Al Pacino et John Cusack.
Mais rien du tout.
Rien à voir avec Civilization ou un quelconque jeu où tu t'amuses à jouer Dieu.
Non plus. Ça n'a rien... Enfin, même si j'aime m'amuser à jouer Dieu, mais ça c'est autre chose. Mais non, ça n'a rien à voir non plus. Ça s'est passé il y a 3 ans. Je regardais juste un reportage à la télé en fait, sur la nouvelle mairie de Londres, qui est une architecture si particulière et que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment fascinante. Et je découvre qu'elle s'appelle City Hall, qui veut tout simplement dire mairie en anglais, il n'y a rien de sorcier à ça. Et je me dis, je ne sais pas pourquoi, ça ferait un titre de BD génial, ça claque, ça donne quelque chose, City Hall. Donc du coup j'appelle Guillaume et je lui dis j'ai un super titre d'album, il faut qu'on fasse un truc qui s'appellera City Hall. Il me dit, mais ouais, t'as raison, ça claque, c'est génial, on y va. Ça parle de quoi? Je te rappelle plus tard, si tu veux bien. Et il s'est écoulé 3 ans. Donc c'était vraiment plus tard, avant que l'histoire prenne naissance.
D'accord. Alors justement, très très bien, très bon timing. Pouvez-vous nous parler justement de l'histoire? J'allais dire de ses balbutiements jusqu'à l'écriture finale et la réception finalement par vos lecteurs actuels.
Bah, peut-être que le mieux, si ça t'intéresse, c'est que je raconte le début de l'histoire, enfin que je le pitch. Je pense que c'est l'histoire qui est le plus parlant aujourd'hui, c'est le projet abouti. Ça se passe à Londres au début du XXe siècle. Le ministre des Finances se fait assassiner dans des circonstances assez mystérieuses et le chef de la police est dépêché sur place pour enquêter sur les circonstances de ce meurtre. Il découvre sur le corps de la victime une feuille de papier à moitié carbonisée sur laquelle quelque chose est griffonné et ça le terrifie. Pour une raison qu'on ignore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fonce à City Hall, donc à la mairie de Londres, débarque dans le bureau du maire, qui se trouve être Malcolm X, et lui dit le monde tel qu'on connaissait a cessé d'exister. Le maire est aussi atterré que lui, et en fait, on découvre tout simplement que dans cet univers, qui est une uchronie, le papier a disparu, enfin, en tout cas a été interdit et détruit depuis plus de 200 ans. Plus personne n'en utilise, ça n'existe plus. L'écriture manuscrite n'est plus enseignée et même interdite, et plus personne ne sait écrire. Tout simplement parce que tout ce qu'on y décrit prend vie. Donc du coup, c'est devenu une arme de description massive, une arme de destruction massive, au choix. Et il se retrouve avec un criminel dans la rue qui possède du papier, qui possède de quoi écrire, qui sait s'en servir, ce qui fait beaucoup, beaucoup de problèmes, et qui en plus s'en sert pour tuer. Donc eux sont complètement démunis face à un criminel de cette envergure, et le maire, Malcolm X, joue son va-tout, décroche son téléphone et dit « Appelez-moi Jules Verne ». Jules Verne, qui est donc un écrivain de livres numériques renommé, débarque avec son assistant, Arthur Conan Doyle, qui est un jeune qu'il a pris sous son aile et en qui il voit beaucoup de talent. Et il décide d'accepter la mission qu'on leur offre, à savoir récupérer le dernier carnet qui se trouve dans les coffres de Londres, descendre dans la rue, enquêter sur l'identité de celui qui commet ces crimes et éventuellement l'arrêter, quels que soient les moyens nécessaires.
D'accord. Alors, ce qui marque justement à ce niveau-là, c'est un mélange justement des genres. Déjà, hommage au steampunk avec tout un tas de technologies issues, que ce soit de, comment dirais-je, des machines à vapeur ou des machines à pétrole. Hommage au manga avec ses gigantesques robots, ses créations finalement assez dantesques et assez saugrenues, voire complètement bizarres. Puisqu'on a une petite créature à un moment qu'on croise au niveau de la banque et qui s'exprime uniquement en faisant grue et où avec un voilà avec un côté très très sympa au début puis carrément effroyable par la suite. Hommage aussi à bon nombre de personnages, alors que ça soit comme tu le dis Jules Verne, Arthur Conan. Alors tu parles de Malcolm X, mais c'est vrai qu'à l'origine tu l'aurais habillé sous son vrai nom,
son
Malcolm
Lytle. C'est pas le nom qu'il avait choisi.
C'est uniquement effectivement une petite note qui nous explique qui il est. On ne fait pas forcément le lien de cause à effet. Le méchant, Black Fall, je dirais aussi une espèce d'hommage complètement appuyé à Edgar Allan Poe.
Absolument.
Et surtout, un personnage féminin de poids, j'ai envie de dire, vraiment marquant, Amelia Earhart, que, à mon avis, la majorité des lecteurs maintenant, voire même des gens tout court, ont dû oublier.
Ce qui est bien dommage, parce que c'est pour moi une représentation de l'aventurière avec un grand A, justement. C'est une femme qui a osé beaucoup de choses à une époque où on les croyait non seulement pas capables de le faire, mais en plus on leur interdisait de le faire. Et pourtant, c'était une fille de militaire. C'est la première femme à traverser l'Atlantique en avion, c'était une aviatrice. Et c'est seulement l'un des faits marquants, parce que je crois qu'elle l'a même fait à deux reprises. Elle a d'ailleurs disparu dans les circonstances mystérieuses, qui font que sa vie est encore plus passionnante aujourd'hui quand on l'étudie. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup marqué l'histoire de l'aviation, mais aussi l'histoire des États-Unis, et qu'on a tendance à oublier. Je trouve ça assez dommage.
Alors, en même temps, comme tu le déclares, début du XXe siècle, mais t'as un peu un côté très rétro-futuriste, qu'on peut croiser Al Pacino, on a l'impression que l'Amérique est déjà en pleine prohibition de fête, ainsi de suite. On tombe vraiment sur quelque chose à la fois de fascinant et que finalement, on aurait peut-être même du mal à trouver au Japon même.
Alors ça, je ne sais pas si on aurait du mal à le trouver au Japon même. Il faudra demander à Guillaume, qui est beaucoup plus lecteur de manga que moi. Mais ce qui est sûr, et ça c'est assumé, c'est que du point de vue du scénario, et je pense que graphiquement c'est la même chose, on a mis tout ce qu'on aimait dans City Hall. Donc j'adore Les Incorruptibles, donc il y a un hommage appuyé aux Incorruptibles de Palma. J'adore l'époque de la Prohibition, donc forcément on en parle. J'aime Amelia Earhart, Jules Verne et Arthur Conan Doyle qui ne se sont jamais croisés et d'ailleurs n'auraient pas pu. J'ai même pas respecté les dates, on est à quelques années près, mais qui font la différence. On inclut même des nouveaux personnages comme Harry Houdini qui va bientôt arriver, qui est annoncé, et d'autres écrivains aussi. Et en fait, j'ai mis tout ce que j'aimais dedans, tout simplement. Mais je suis parti quand même d'une idée de structure qui était une base uchronique, à savoir, on est dans un monde dans lequel le papier a cette portée magique, entre guillemets. Donc à partir du moment où on décide de supprimer de ce monde le papier, comment ce monde va se développer, comment les gens vont réussir à communiquer, alors qu'aujourd'hui encore, c'est un outil majeur de communication chez nous. Ce qui a donc pour incidence de conduire au développement d'écrans LCD qui sont reliés à des machines à écrire, de développement de keybox USB, d'un réseau SteamNet, enfin de ce genre de choses, qui ont évidemment vu le jour bien plus tard que début du XXe siècle.
Finalement, Steve Jobs aurait été tout à fait ravi d'être dans ce monde-là. Et dans mes souvenirs, le premier iPad avait été tenté dès les années 80 et avait échoué suite aux gros problèmes de technologie,
c'est ça.
La technologie ne suivait pas. Comme par moments, on peut être visionnaire et se heurter face au mur de la réalité. Alors, effectivement, très très grande importance de l'écriture. En même temps, très très bonne aventure, très bon cliffhanger de fin. Alors, c'est une série annoncée sur 3 tomes, donc ça sera complet, j'imagine, pour la fin de l'année ou en début d'année prochaine, en 2013.
Alors, le deuxième volume est prévu pour le 27 septembre, on a la date précise.
D'accord.
Le troisième volume sera vraisemblablement dans le premier trimestre. Là, par contre, c'est un petit peu tôt pour prononcer précisément. Et ce sera premier trimestre 2013.
D'accord. Alors à ce niveau-là, vu qu'on a affaire à un univers finalement qui pourrait connaître une expansion, est-ce que vous avez déjà songé, soit à demander à d'autres camarades, soit vous-même, à partir sur d'autres pistes, j'allais dire, au niveau des équipes, c'est pas les auteurs qui manquent, je pense à G. Wells, je pense à quelqu'un comme Josephine Baker, et ainsi de suite, j'allais dire au niveau des personnages.
ce qui est super drôle, c'est qu'il y a des lecteurs carrément qui nous donnent des bonnes idées. Donc on est en train de voir ce qui serait possible de faire ou pas dans les prochains écrivains qui vont entrer en scène dans l'histoire, dans les deux camps, hein, soit du côté de Jules Verne, soit du côté de Black Fall. On sait qu'il y a dans le troisième tome, déjà dans le deuxième tome, un écrivain qui se rallie à Black Fall, qui est Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein. Dans le troisième tome...
Est-ce qu'on le révèle
ou
pas ?
On le révèle pas.
Si, en fait, il apparaît dans le deuxième, donc les gens seront... Il y a un personnage qui va prendre de l'ampleur, qui n'est pas écrivain dans ce monde, mais qui va avoir énormément d'importance. Alors, on ne vous dit pas pour quel camp il va œuvrer, mais ce qui est sûr, c'est que George Orwell fera partie des heureux élus.
C'est un journaliste un peu paranoïaque, très pour la théorie du complot. Quoi,
qui est persuadé qu'on le surveille en permanence. Mais oui.
On a la gymnastique devant sa télé.
Mais on a évoqué H.G. Wells, on a évoqué Lovecraft. On a évoqué tous ces gens-là, et Agatha Christie aussi. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup.
Oui, c'est vrai que la liste devient infinie au fur et à mesure.
Bah d'ailleurs, un petit indice, sans vous révéler tout, parce qu'ils ne seront pas tous là, mais chaque chapitre de City Hall est séparé par une citation, et ça va continuer jusqu'à la fin du tome 3. Et bon nombre des écrivains qui ont été choisis, ils ne sont pas tous écrivains, mais ceux qui sont écrivains et qui ont été choisis pour faire partie de ces citations ont une raison de l'avoir été. Donc peut-être que ce sont simplement des personnages qu'on retrouvera bientôt dans City Hall, pourquoi pas, dès lors qu'on aura le feu vert, si on a le feu vert, pour faire une suite. Et donc ce serait une nouvelle enquête en trois volumes. L'équipe initiale resterait, mais on aurait des ajouts d'écrivains qui œuvreraient pour un camp ou pour l'autre.
Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour... on peut même plus appeler ça une mise en bouche. Là, on a carrément été servi sur des plats en argent. Et d'ailleurs, je vais reprendre un peu de ce vin, s'il vous plaît.
Merci.
Non, merci beaucoup. Tout ce que je souhaite, c'est vraiment une réussite pleine et entière à une œuvre finalement fantastique, n'ayant pas peur des mots, et qui mérite amplement de trouver le plus grand nombre de publics possible.
Merci beaucoup et merci pour l'interview.
Merci.